à tous et je passe la parole à Nadine.
Merci. Je voudrais donc commencer par remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille pour cette journée. Effectivement, la convention avec l'équipe ERMA court depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On a commencé plutôt par des conférences ponctuelles et puis depuis 3 ou 4 ans, on a décidé de muter ces conférences en des journées d'études qui, d'un point de vue scientifique, nous apportent beaucoup à l'équipe puisque c'est l'occasion de se rencontrer entre chercheurs, de faire de la formation de haut niveau pour nos étudiants de master et donc et aussi de toucher le grand public puisqu'il y a un rayonnement de l'Espace Mendès France qui est assez considérable dans la ville de Poitiers. Donc ces journées sont vraiment très très importantes pour l'équipe ERMA. Et celle-ci est particulièrement intéressante puisqu'elle reflète quand même l'aspect pluridisciplinaire de notre équipe auquel on tient beaucoup, pluridisciplinaire dans les sciences humaines, puisque là on va parler d'iconographie, d'archéologie, d'histoire et d'histoire via la littérature aussi, mais aussi des collaborations avec les sciences exactes. ERMA est très attaché à ce type de collaboration puisqu'on développe déjà plusieurs collaborations avec la physique, avec l'informatique sur des projets de sciences humaines. Et là, c'est la première manifestation où il y a une collaboration avec des acousticiens dans le cadre de cette thématique. Et donc, ça élargit encore les collaborations diverses auxquelles ERMA est vraiment ouverte dans ses recherches. Donc, je remercie Alexandre d'avoir pris en charge toute l'organisation, les contacts, etc., pour mettre en place cette belle journée scientifique. Alors, je ne vais pas pouvoir rester avec vous pour le moment. Je vais essayer de revenir en fin de matinée et puis pour écouter quelque chose, parce que je suis extrêmement frustrée d'avoir des contingences administratives à gérer. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée.
Merci Nadine, merci d'avoir ajusté la couleur de ton corsage au micro, c'est assez impressionnant, je m'attendais presque à ce que ça change avec moi, mais non, c'était juste toi qui avais réussi à faire ça. Merci évidemment à l'Espace Mendès France et à Anne Piriou pour nous accueillir ici pour cette journée qui, telle que je la vois, peut être comprise de deux manières. Il y a ceux qui ont un petit peu un intérêt pour la chose, pour tout ce qui est audition, pour tout ce qui est sens, et qui doivent se dire encore une journée sur l'histoire des sons, encore une journée sur l'histoire des sens. On en a eu à Poitiers, les médiévistes nous ont fait des journées sur l'histoire des sens. On a des musicologues médiévistes qui interviennent très très régulièrement. Pourquoi encore? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à dire encore et parce qu'il y a des choses à dire pour l'histoire de l'Antiquité. Et puis il y a les autres, peut-être plus nombreux dans le public, qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'objet et qui ont peut-être, eux, été étonnés par le fait que l'on puisse faire une archéologie des sons, une archéologie de la musique. Et c'est pour cela, j'espère qu'ils découvriront l'ampleur des sources qui sont à disposition, l'ampleur des problématiques que l'on peut brasser. Et pour tout cela, je voudrais signaler que la journée qui nous regroupe aujourd'hui s'inscrit dans la lignée d'une série de rencontres qui a été initiée par un certain nombre de personnes qui sont ici autour d'un programme de recherche appelé Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne, qui regroupait à l'époque trois instituts français à l'étranger, l'École française d'Athènes, l'École française de Rome et l'Institut français d'archéologie orientale. Un programme qui a duré 4 ans et qui a donné lieu à 3 manifestations déjà. La première était une perspective théorique, une réflexion sur la notion de paysage sonore et sur la possibilité justement de faire une étude historienne, historique, archéologique des sons et de la perception. Elle a été publiée dans cet ouvrage que je vais faire passer pour tous ceux qui ne l'ont pas soit écrit, soit subi déjà en séminaire de master, mais ils vont faire semblant de le regarder avec intérêt et les autres seront intéressés sans doute. Donc une première journée qui a été publiée, une deuxième journée qui sera publiée très rapidement aussi, toujours à l'Institut français d'archéologie orientale et qui était consacrée à une approche lexicographique sur la terminologie, la manière de signifier le son et la manière de le percevoir. Ça s'appelait de la cacophonie à la musique. Et une dernière journée qui a eu lieu en janvier dernier à Paris, En partenariat avec le Louvre, en partenariat avec l'IRCAM, et certains de nos amis et collègues de l'IRCAM sont là aujourd'hui et je les en remercie. Une journée appelée la fabrique du sonore sur les instruments de musique, leurs anciens évidemment, leurs caractéristiques techniques, physiques, en tant qu'objet archéologique, comment travailler sur ces instruments, comment essayer de réfléchir sur les potentialités sonores qu'ils pouvaient avoir et qu'ils peuvent avoir encore, comment les reconstituer, faut-il ou pas les reconstituer. Des journées passionnantes que vous pouvez voir en partie sur le site de l'IRCAM qui, de la même manière que, que l'Espace Mendès France, a fait des podcasts et même des vidéocasts, je ne sais pas si ça se dit, des vidéos donc, que vous pouvez consulter avec profit. Et il y a donc cette journée qui est un peu une synthèse, avec des intervenants qui pour l'essentiel se connaissent, sont quasiment en échange quotidien, voire pluricotidien, autour du dernier grand projet qui est issu, dans une certaine mesure, de ce programme de recherche et qui est une exposition qui aura lieu au Louvre Lens, qui ouvrira ses portes le 13 septembre 2017 à Lens jusqu'au 8 janvier. Une exposition dont le titre n'est pas encore tout à fait définitif, mais qui, c'est sûr, portera sur la musique et les sons de l'Antiquité. L'exposition, vous pourrez aller la voir à Lens, et si vous préférez le soleil, encore que chaque fois ou presque je suis allé à Lens, il faisait très très beau, vous pourrez la voir ensuite à Barcelone et ensuite à Madrid, puisque ce sera une expo itinérante en partenariat avec la Fondation Caixa. Cette exposition, elle est axée sur un très très long temps, sur une très longue durée. C'est une caractéristique que vous retrouvez dans le programme que vous avez sous les yeux aussi. C'est un choix, évidemment. Nous allons commencer notre journée avec Nel Ziegler, qui est assyriologue, et qui donc nous emmènera dans le Proche-Orient ancien, et nous la terminerons avec Pompéi, et donc avec le premier siècle de notre ère. Plus de 3000 ans d'histoire avec cet axe de la musique, de l'archéologie musicale, de l'archéologie des sons, et cette idée de travailler sur la longue durée, c'est vraiment quelque chose qui est structurant de la réflexion qui a été initiée il y a quelques années maintenant et dont nous sommes très fiers de continuer à la faire vivre, aussi bien dans l'exposition que dans les journées comme celle-ci, parce qu'elle permet de réfléchir sur le long terme, sur des questions de transmission ou non, sur des questions de permanence ou de changement, bref, d'introduire une épaisseur historique qui est tout de même au cœur de la démarche historienne. Donc, longue durée, longue arc chronologique, et dernier élément, et après je cède la parole à Nel, Nadine m'a volé mon mot-clé, mais c'est celui qu'il faut prononcer, la pluridisciplinarité. Il y a des historiens, il y a des archéologues, il y a des épigraphistes, il y a des épigraphistes, archéologues, historiens, il y a des acousticiens, avec en commun cette réflexion autour du son et cette approche pluridisciplinaire qui enrichit les questionnements, qui enrichit les problématiques et dont on espère qu'elle vous convaincra pour ce que vous pourrez entendre aujourd'hui. Je cède la parole tout de suite, je laisse la place à la science, aux choses vraiment intéressantes, et j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps Nel Ziegler, notre collègue donc assyriologue, CNRS, rattaché au Collège de France, qui va nous proposer une approche relativement topographique sur la musique en Mésopotamie. C'est un des axes qui a été choisi par les intervenants. Il y a ceux qui vont faire une sorte de portrait d'un espace à travers sa musique et de ce que l'on pouvait entendre et de la manière dont on peut réfléchir avec une grande réflexion méthodologique que j'avais demandé aux intervenants, puisque le but c'est quand même de faire une formation aussi pour les masterants. Comment réfléchir sur les sources, les diverses sources et les diverses manières de les faire parler. Donc première approche qui sera aussi celle de Sylvain Perrault qui prendra la parole ensuite. Une approche par les instruments qui sera développée ensuite sur les sistres, sur les harpes. Et enfin, dans un dernier temps, le temps de l'après-midi, on aura la présentation d'un dossier qui a été un sous-développement du programme Paysage Sonore, un dossier pluridisciplinaire d'études sur les instruments de musique conservés à Pompéi, et plus particulièrement des grands aérophones de bronze, des grandes trompes de bronze qui s'appellent des cornois, sur lesquels vous aurez une série de trois interventions, et notre collègue acousticien Joël Libert fera une ouverture sur les questions de reconstitution musicale de ces grands instruments en bronze.
Je vais évidemment commencer par remercier le Centre Mendès France, l'Espace Mendès France, pardon, qui nous accueille aujourd'hui. Alexandre, pour avoir organisé cette journée de sa main de maître qu'on lui connaît. Et j'en profiterai aussi pour remercier in absentia la direction de mon collège qui a bien voulu que je me joigne à vous aujourd'hui en déplaçant mes cours. Alors, pourquoi Sparte ? Alors, effectivement, j'ai l'habitude de m'occuper de Delphes. C'est à Delphes que j'ai consacré, la musique à Delphes que j'ai consacré ma thèse, mais de manière générale, donc je m'occupe de paysages sonores dans le monde grec. Et j'ai choisi Sparte en me disant déjà qu'il y avait une chance que vous connaissiez, que vous ayez déjà entendu parler de Sparte, puisque dans l'histoire, elle est restée célèbre comme la grande adversaire d'Athènes, notamment au 5e siècle, et la bataille des 300 avant contre les Perses aux Thermopyles. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Sparte à l'époque archaïque. Donc je situe immédiatement le contexte temporel. Donc nous sommes au 7e et surtout au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et si j'ai choisi de parler de Sparte, c'est qu'elle est présentée par les sources littéraires comme le lieu véritablement où s'institue la musique dans le monde grec. C'est une remarque de Plutarque qui le dit. Alors je situe Sparte, pardon, quand même géographiquement. Donc nous avons ici la Grèce, le Péloponnèse, et Sparte se trouve ici, donc au sud du Péloponnèse. Et Sparte comptait plusieurs sanctuaires dont je vais parler aujourd'hui, notamment le sanctuaire d'Artémis et le sanctuaire d'Athéna, et un sanctuaire d'Apollon un peu plus éloigné. Donc voici ce qu'écrit Plutarque dans son traité qui prend la forme d'un dialogue entre divers intervenants sur la question de la musique. Voici ce qu'il écrit. « La première institution musicale eut lieu à Sparte, institution due à Terpandre. S'agissant de la seconde institution, ce sont Alétas de Gortyne, Xénodamos de Cythère, Xénocritos de Locre, Polymnestos de Colophon et Sacadas d'Argos qui portent la plus grande responsabilité d'en avoir été les chefs. C'est à leur instigation qu'on dit qu'a été institué ce qui concerne les gymnopédies à la Cédémone. » Alors, beaucoup de noms, c'est l'avantage peut-être par rapport à la Mésopotamie, c'est quand, pour le monde grec, nous disposons d'une masse textuelle considérable, avec des textes de tout type, qui nous parlent abondamment de la musique, et en particulier, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais je le signale dès maintenant, une des spécificités peut-être du monde grec, c'est le développement d'une théorie musicale extrêmement complexe, qui nous est parvenue par le biais d'une quinzaine de traités musicaux, et notamment tout un système de notation musicale et des partitions, dont j'en parlerai pas non plus aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas à Sparte, mais que nous connaissons par le biais de ces traités, le système de notation musicale. Donc, Sparte est présentée par l'intervenant de ce dialogue de Plutarque comme le lieu de la première institution musicale, c'est-à-dire le verbe katistémi en grec désignant l'établissement, l'organisation, une organisation réglée, disons, de la musique, sans pour autant qu'on précise exactement les modalités de cette institution. C'est pour ça que je propose aujourd'hui de revenir sur les textes et les vestiges archéologiques et un peu d'iconographie trouvés à Sparte pour essayer de comprendre ce qu'est cette institution et comment notamment elle est reliée à l'environnement sonore ou ce que nous appelons donc dans notre groupe maintenant, après l'avoir donc, y avoir réfléchi, le paysage sonore, et je renvoie à la définition que Alexandre Vincent donc propose dans le volume qui circule parmi vous. Donc sur, en tout cas, le point névralgique de la définition étant la recontextualisation de ces sons dans un lieu et une époque donnée. C'est pour ça que j'ai préféré, plutôt que de parler de la Grèce en général et des sources grecques en général, d'un cas spécifique qui est Sparte, où vous verrez quand même différents types de sources. Alors, Sparte, à l'époque archaïque, il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé dessus, c'est Claude Calame, un anthropologue suisse assez célèbre, qui a beaucoup travaillé sur le grand poète de Sparte de l'époque archaïque, qui est Alcman. Et il parle pour Sparte à l'époque archaïque d'une song culture, donc une culture du chant, parce que Sparte se caractérise notamment par des chœurs de jeunes filles qui évoluent dans la Sparte de l'époque archaïque. Sparte qui connaît également de grands concours musicaux à cette époque, les gymnopédies dont il est question ici, mais également les carneia et les iacuntia dont j'aurai l'occasion de parler plus tard. C'est un lieu donc où sont venus les plus grands compositeurs. Terpandre, dont il était question chez Plutarque, vient de Lesbos, une île du nord de la mer Égée, mais c'est lui donc qui institue la musique à Sparte. Alcman n'est probablement pas non plus originaire de Sparte, on le fait plutôt venir d'Asie mineure, dans les sources de Lydie, mais il s'établit à Sparte, et c'est notre source principale sur donc, le paysage sonore de Sparte en termes textuels. Donc c'est de là que je commencerai. Ensuite, que je partirai, pour ensuite voir comment ces sons, d'après les vestiges archéologiques, peuvent être appréhendés dans une approche topographique, puisqu'il y a différents sons selon les différents endroits où on se trouve à Sparte. Et j'essaierai de mettre tout ça en perspective avec une spécificité de Sparte, qui est le laconisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser peu de mots, et voir comment cela peut s'articuler donc avec l'environnement sonore. Alors tout d'abord, le témoignage d'Alcman. Donc voici une carte un peu plus restreinte donc de la région de Sparte. Sparte est ici. J'aurai l'occasion de parler du temple d'Artémis Ortia qui est ici, le long de la rivière Eurotas, célèbre pour ses roseaux. Ici, l'acropole qui est coiffée du temple d'Athéna Kalkioikos, le sanctuaire d'Apollon Amycléen. Et puis ici, vous voyez le dénivelé. Nous sommes sur le mont Tégète, une des montagnes les plus hautes de Grèce, où se trouve un autre temple d'Artémis auquel je me référais également. Alors tout d'abord, commençons par Alcman, qui dit dans ce fragment qui nous a été préservé par Athénée, voici donc ce que dit Athénée, « Les perdrix sont appelés par certains auteurs cacabaï, notamment par Alcman qui dit « Alcman a trouvé ses paroles et de sa langue a sifflé l'air en tressant la chanson des perdrix, indiquant clairement qu'il apprenait à chanter auprès des perdrix. » Donc c'est un topos de la littérature grecque que la musique vient de l'imitation de la nature, ce qui n'est pas forcément une vérité bien sûr, mais c'est comme ça que c'est présenté. On le retrouve jusque dans la littérature romaine. Lucrèce, dans une page célèbre, dit que la musique vient du chant des oiseaux. Mais voilà, Alcman, c'est un des premiers auteurs qui le dit clairement, à la première personne, ce qui est une particularité, enfin du moins à la troisième personne, mais parlant de lui-même. C'est une spécificité d'Alcman de parler de lui beaucoup, et notamment donc de sa pratique musicale et de son inspiration. Et voilà, donc la musique viendrait de son environnement sonore, ses perdrix qui, cela dit, posent une difficulté, première difficulté, c'est pour ça aussi que je voulais parler de problème, c'est que les cacabaï ne sont pas du tout endémiques de Sparte, c'est une espèce d'oiseau qui est soit d'Asie mineure, soit d'Athènes. Donc on a déjà une difficulté, c'est que c'est un auteur qui parle de Sparte, mais qui ici évoque autre chose que Sparte, donc peut-être à l'occasion de ses voyages. En revanche, c'est bien des cultes de Sparte qu'il parle dans ce qu'on appelle le Parthénée du Louvre. Donc c'est un papyrus qui a été retrouvé, qui se trouve dans les collections du musée du Louvre. Un papyrus assez célèbre qui est un Parthénée, donc un chant de jeune fille. Et voici, donc, il est fait référence à Agésicora, une femme dont le nom est tout un programme puisqu'il signifie la meneuse de cœur. Et donc c'est un cœur de jeune fille qui parle, et voici ce qu'ils disent. « Moi, je suis une jeune fille qui du toit a en vain poussé des cris de chouette. Moi, je désire surtout être agréable à Otis, avec elle il y a pour nous remède à tout mal. Il faut que le timonier ait une voix très forte sur son navire. Le chant d'Agésicora n'est pas plus mélodieux que celui des sirènes, car ce sont des déesses. » Ensuite, c'est un peu fragmentaire, au lieu de 10 enfants, elle chante comme le cygne sur les flots du Xanthos. Donc, dans ces quelques vers, Alcman se réfère clairement au son des oiseaux. On a plusieurs en quelques lignes. D'abord, le cri de la chouette. La chouette, c'est l'animal sacré d'Athéna. Ensuite, qui donc, pousse son cri la nuit. Ensuite, il est question du cygne qui est, lui, par contre, l'oiseau d'Apollon, le grand dieu de la musique, du moins à l'époque classique. À l'époque archaïque, les choses sont plus floues. Il y a plusieurs divinités, notamment Artémis, qui aime également la musique. Et puis, au milieu, il y a cette déesse, Aotis, qui est un mystère, en partie du moins, qui est probablement donc la déesse de l'aurore à Sparte, et qui est une épithète de la déesse Artémis. Et donc c'est un chant cultuel en l'honneur de la déesse Artémis, qui est probablement aussi la déesse Artémis Ortia, donc la principale Artémis de Sparte, qui était également donc appelée la déesse Aotis de l'aurore. Il y a donc ici un paysage sonore fait de chants d'oiseaux qui oscille entre la chouette et le cygne et qui oscille donc entre la nuit et le jour. Et le culte dont il est question ici se passe à l'aurore, donc justement au moment où on change d'une perception sonore à une autre. Et Plutarque, notamment, dont je parlais au tout début, s'interroge dans ses propos de table sur la question « Pourquoi la nuit est-elle plus sonore que le jour ?» en développant toute une argumentation que je ne reprendrai pas ici. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ce rituel pour Artémis Ortia, Artémis Aotis. Qu'en savons-nous finalement, donc, d'après ce Parthénée, donc un lien peut-être avec le son qu'on peut entendre, et en tout cas, il y avait un chant qui ne vaut pas celui des sirènes, disent les jeunes filles, c'est-à-dire que les sirènes étant des divinités, une jeune mortelle ne peut pas chanter aussi bien, mais en tous les cas, Agésicora est une figure conductrice de la musique, et c'est elle qui mène également le rituel. Alors, le sanctuaire d'Artémis Ortia, le voici, donc il se trouve dans cette région de Sparte, c'est le numéro 3, donc à proximité de la rivière Eurotas, dans un quartier de Sparte qui s'appelle Limnaïs, qui en grec signifie les marais. Nous sommes dans les marais ici, logiquement, hein, puisque nous sommes à côté de la rivière Eurotas. Et ce sanctuaire a été fouillé au début du XXe siècle par l'école britannique. Et donc on est à trouver essentiellement des vestiges d'époque romaine, et notamment ici les vestiges d'un théâtre. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment les fondations, dont on n'a pas grand-chose, et l'existence surtout d'un matériel votif, constitué en partie de fragments d'olos. Alors, l'olos, c'est un instrument à vent qui se joue avec deux tuyaux, instrument à hanche, double, dont vous voyez ici des exemplaires qui ne font absolument pas rêver, j'en conviens bien, ils sont très fragmentaires. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont ces deux fragments-là qui ont la particularité d'être inscrits. C'est-à-dire que le propriétaire, probablement, le dédicant, a gravé sur cet instrument deux formules qui sont d'une part ta horta, c'est-à-dire une dédicace très claire à la déesse Hortia, Artemis Hortia, et ici un autre fragment où il est écrit Akradaios, qui est le nom du dédicant, un certain donc Akradaios. C'est une racine qui renvoie à l'idée de la poire. Donc c'est Monsieur Poire, Poireau peut-être, si l'on veut. Donc voici à quoi ressemblent les fragments tels qu'ils sont exposés à l'heure actuelle au Musée national d'Athènes, et voici celui donc qui concerne notre Akradaios. Alors, pourquoi des oloi ont-ils été consacrés dans le sanctuaire d'Artemis Hortia? Alors, outre le Parthéné, donc, nous avons une autre source, enfin quelques autres textes qui nous parlent d'un rituel très particulier, très archaïque, dans ce sanctuaire, qui est ce qu'on appelle en grec la diamastigosis, c'est-à-dire la flagellation. Flagellation rituelle. Dans la société spartiate, quand vous êtes un jeune homme, donc un éphèbe, enfin, vous passez le rituel vous faites votre rite de passage qui consiste de passer donc, de l'adolescence à l'âge adulte, le temps de l'éphébie, donc en gros entre 16 et 18 ans, vous subissez à Sparte, parce qu'on aime bien les choses un peu violentes à Sparte, donc on subit la diamastigosis, c'est-à-dire que près de l'hôtel d'Artemis Hortia, donc on dispose des fromages, et les jeunes gens doivent attraper les fromages tout en évitant les coups de la flagellation. C'est un rituel assez violent, hein. Les textes nous disent clairement qu'on les flagelle jusqu'à ce que le sang coule, et il est absolument interdit de leur venir en aide, ils ne doivent pas éviter la flagellation, sinon Artemis se fâche. Sa statue, son psoanon, devient plus lourd, donc c'est la preuve que le jeune homme ne fait pas ce qu'il fait. Et cette flagellation, donc, elle devait être accompagnée, ça on ne nous le dit pas malheureusement, mais il y a des chances qu'elle ait été accompagnée de musique. Sinon, je ne vois pas pourquoi on aurait offert des oloi. Alors la question étant de savoir évidemment si ces oloi, cette musique, accompagnait le rituel de la diamastigosis. Et c'est là qu'il faut explorer le reste du matériel votif. Alors je vous ai juste mis au passage un autre fragment d'Alcman, très fragmentaire comme vous voyez, il accompagnera notre chant de son olos pour insister sur le fait qu'ici nous avons un homme qui a offert cet instrument, c'est pour ça qu'il y a peut-être un lien donc avec le rituel concernant ces jeunes gens. Voici ce qu'on a retrouvé dans le matériel votif du sanctuaire d'Artemis Hortia, c'est donc une jeune femme vêtue d'une longue tunique jouant des cymbales, donc datée du 6e siècle avant Jésus-Christ, preuve que le culte d'Artemis est lié au son des percussions également. Alors, je développe un peu cette question des cymbales, puisqu'on a trouvé également, alors pas dans le sanctuaire d'Artemis Hortia, mais dans un autre sanctuaire de Sparte, le sanctuaire d'Artemis Limnatis, sur le mont Tégète, cette cymbale, qui est aujourd'hui conservée à Berlin. Et voici ce que dit l'inscription, une fois encore, on a une inscription votive qui court tout autour, qui dit « Oporis anetheke limnati », Oporis, une femme, m'a consacré, c'est la cymbale qui parle, à Limnatis. Alors pourquoi je parle de cette cymbale? Puisque finalement c'est un tout autre sanctuaire, mais Artemis Limnatis signifie Artemis des marais. C'est en lien clairement avec le quartier de Limnai à Sparte. Donc il y avait une connexion topographique et rituelle donc, entre le sanctuaire d'Artemis Hortia dans les marais et le sanctuaire d'Artemis Limnatis sur le mont Tégète. Et donc nous avons clairement un culte lié à l'olos, aux cymbales, ce qui peut être confirmé par ici ce manche de miroir, dont il ne reste que le manche, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Donc il représente une jeune femme nue jouant des cymbales. Donc même une iconographie un peu différente, mais qui irait dans le sens de l'Artémis Sortia, parce que l'Artémis Sortia, ce n'est pas l'Artémis classique de la sœur jumelle d'Apollon s'ébattant dans la montagne faisant de la chasse, mais une divinité probablement venue d'Asie mineure, ce qu'on appelle la Potiniatérone à l'époque archaïque, la maîtresse des bêtes sauvages. Et cette figure d'Artémis, ce manche de miroir a été retrouvé dans le sanctuaire d'Apollon à Amyclée, donc elle est de la même époque. Amyclée, c'est ici, donc je vous ai indiqué. On est un peu plus loin que le temple d'Artémis Sortia. En revanche, on est bien toujours le long de la rivière Orotas. Donc il y a encore une connexion qui se fait, d'autant qu'on est renseigné sur les cultes qui avaient lieu dans le sanctuaire d'Apollon à Amyclée. C'est ce qu'on appelle les Hyacinthi, un culte de la végétation, qui est donc en l'honneur d'Apollon, mais où intervenaient également des chœurs de jeunes filles. Donc il y a dans les deux sanctuaires, le sanctuaire d'Artémis Sortia, un culte pour les jeunes gens et les jeunes filles, et dans les Hyacinthi, un culte des jeunes gens et des jeunes filles. Donc des parallèles à faire qui se montrent également iconographiquement. Donc on retrouve une figure féminine dans un sanctuaire d'Apollon, et je rappelle donc Artémis est la sœur jumelle d'Apollon. Je finis mon tour iconographique avec cette figurine particulièrement étrange. Là encore, un manche de miroir, retrouvé cette fois à Chypre sur le site de Kourion, donc ici. Donc Chypre, qui est donc de culture orientale et grecque. Et c'est une figurine qui a été retrouvée à Chypre, mais qui est, avec certitude a été fabriquée à Sparte, pour un parallèle stylistique. Et c'est encore une jeune femme donc nue qui joue des cymbales. Alors vous voyez ici des pattes de lion qui partent, ici la coiffure d'Isis, ça c'est pour nos égyptologues, et vous voyez qu'elle est dessus sur une grenouille. Arrive le grand moment de mon exposé, comment les grenouilles croassent-elles en grec? Vrekekekex, quax, quax, vrekekekex, quax, quax. Je traduis, vrekekekex, quax, quax, vrekekekex, quax, quax. C'est la manière, en tout cas, dont Aristophane, dans les grenouilles, rend le chant de la grenouille, qui, vous voyez, est très percussif. Et vous voyez donc peut-être un lien, je n'ai pas le temps de développer, j'ai d'autres arguments, sur les parallèles qu'on peut faire entre le son de la cymbale et le son de la grenouille. Alors, notamment, je présente juste cette grenouille votive en bronze qui vient du Péloponnèse, alors pas de Sparte en particulier, et qui est inscrite « Amon sonou boassoni », « Amon fils de Sonoos à Boasson ». Alors, je parle simplement de cette grenouille pour deux raisons. La première, c'est que Boasson, c'est un mot grec qui signifie « celui ou celle », enfin « celui plutôt qui va chanter, qui va crier ». Donc peut-être le nom de la grenouille en question, le nom ou de la divinité pour laquelle la grenouille fait intermédiaire, mais surtout je voulais profiter de la présence des égyptologues dans la salle, puisque cette grenouille, en fait, les noms Amon, Sonoos, ce ne sont pas des noms grecs. Il a été supposé que c'était des noms égyptiens, et ma question, donc on pourra peut-être approfondir après, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la grenouille et la musique dans le monde égyptien? Donc je vous mets juste les représentations de la déesse Hekate, parce qu'on a mis cette grenouille votive en lien avec la déesse Hekate, et notamment la sonorité dans le monde égyptien. Alors ça c'est une représentation du temple de Dendara, si je ne me trompe pas. Et il y a cette, je profite parce que c'est une très belle pièce au Louvre, cette grenouille qui a été décorée en dessous d'un âne jouant de l'art. Donc je ne développe pas, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'est pour ouvrir le champ du débat. Pour les égypto-romanistes de la salle, cette lampe en terre cuite qui représente ici une grenouille jouant de la cithare, puisqu'il y a visiblement un lien à la musique. Alors évidemment ici c'est une parodie d'une scène mythologique célèbre qui est Arion sauvé par les dauphins jouant de la cithare, mais là Arion s'est transformé en grenouille. Je passe sur donc premier contexte topographique sonore, donc le temple d'Artémis Sortia et le temple d'Apollon à Amyclée. On peut comparer cette situation à ce qui se passe sur l'Acropole, au même moment, si je puis dire, dans le sanctuaire d'Athéna Kalkioikos. Alors, Athéna Kalkioikos, donc c'est la déesse Athéna, mais qui avait donc comme épiclèse Kalkioikos, qui veut dire à la maison de bronze, ce qui réfère donc au temple. Alors, on n'en a guère que les fondations. Personne ne sait exactement ce que ça signifie. Alors, Il est peu probable que le temple ait été entièrement en bronze. Il est plutôt probable qu'il ait été décoré de façon assez extraordinaire en bronze, parce qu'il y avait peut-être une propriété acoustique, mystère. Mais en tous les cas, dans ce temple, on a retrouvé des clochettes. Donc non pas des cymbales ni des oloïs, mais des clochettes. Là encore, avec des inscriptions, dont vous avez quelques exemples ici. Alors, pardon, c'est les dessins, je vous montrerai un original juste après. Aneteke Weirana Athanaya, Eirana, une femme, donc m'a consacrée à Athéna. Aneteke Kallikratia Athanaya, Kallikratia m'a consacrée à Athéna. Et voici donc l'exemplaire exposé actuellement au musée de Sparte. Athanaya Aneteke, Empédocles Aneteke, Empédocles m'a consacrée à Athéna, m'a consacrée. Le verbe est répété deux fois. Donc, ici, sans rentrer dans le vaste débat des gender studies, on voit bien que ces clochettes sont offertes aussi bien par des hommes que par des femmes. En revanche, hélas, pour ce contexte, nous n'avons aucun texte qui parle d'éventuels rituels qui avaient lieu au temple d'Athéna, et notamment dans quel cadre ces clochettes avaient été consacrées. Sinon que, habituellement dans le monde grec, les clochettes sont consacrées pour des raisons apotropaïque, donc chasser les mauvais esprits. Et l'on voit ici à Sparte, avec cet exemple, que finalement il y a deux compétences différentes qui sont incarnées par les deux déesses. Artémis est aux marges de la cité, dans les marais, protège la fertilité des sols, notamment la fécondité des sols, tandis qu'Athéna, qui occupe les hauteurs sur l'acropole, elle protège la cité des attaques extérieures, des ennemis. Et c'est bien connu qu'Athéna est la protectrice des acropoles. Elle est souvent déesse d'Acropole. Et Artémis, en tout cas à l'époque archaïque, occupe souvent ces zones frontières, et notamment ces marais, particularité qu'elle partage avec Héra, notamment à Samos. Alors, comment ces rituels s'inscrivent dans le contexte général sonore de Sparte? Et j'irai un peu plus rapidement sur ces questions. Et notamment, je renvoie à cet article de David sur le cosmos de Sparte du silence. Cosmos, c'est un mot grec qui signifie le monde organisé, qui était le mot que les Grecs anciens utilisaient eux-mêmes pour définir la loi spartiate. Alors, il y a le terme de rétra, qui vient de Lycurgue, mais il y a aussi le cosmos, c'est l'organisation spartiate, une organisation qui se veut donc mesurée, organisée. Et la question que je voudrais poser pour finir mon exposé, qui reprend donc ce que j'ai dit au début, c'est: est-ce qu'il y a un lien entre l'organisation sociale de Sparte, dont vous avez eu quelques éléments par les rituels qui sont liés à la société de Sparte, puisqu'il s'agit des rites de passage des adolescents devenant citoyens? Est-ce qu'il y a un lien donc entre l'organisation sociale de Sparte à l'époque archaïque et son organisation musicale? Alors, je renvoie à cet article qui est tout à fait intéressant. David a fait un gros travail de collation des sources, et il distingue ces sept types de silence, notamment, en lien avec ce fameux laconisme de Sparte. Pourquoi les Spartiates parlent si peu? Ils sont laconiques, effectivement. Plutarque cite beaucoup d'apophthegmes des généraux ou des rois spartiates. Tout tient en peu de mots. D'ailleurs, un des rois spartiates, selon Plutarque, on lui avait demandé pourquoi les Spartiates parlaient si peu, et il avait répondu: une société qui parle peu a besoin de peu de lois. Donc, pardon, la question c'était: pourquoi Sparte a si peu de lois? Donc la réponse était: on n'a pas besoin de beaucoup de lois quand on ne parle pas beaucoup. Peut-être qu'on pourra en tirer un enseignement pour notre monde politique actuel. Je ferme la parenthèse. Donc ces silences, alors David a fait ça à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il il énumère différents cas. Il me semble que, j'ai pas le temps ici, mais qu'on pourrait regrouper, et notamment ce que je vous ai démontré ici, les silences éducationnels et les silences socio-rituels vont ensemble en fait. Et je rentre pas dans les détails, mais je voulais signaler quand même cet article qui pose de bons fondements pour la réflexion sur la place du silence dans le monde spartiate, puisque notamment, je fais référence aux travaux de Dominique L'Enfant, qui a montré que, dans le monde grec en tout cas, l'ethnicité peut être définie par le milieu. Alors, sans parler de déterminisme, bien sûr, mais il peut y avoir une ambiance des lieux qui peut influer sur le caractère. C'est en tout cas la théorie grecque. L'éthos des peuples grecs est lié au milieu. Ça, c'est en tout cas une théorie qui est développée, et du coup, elle concerne nécessairement la question de la musique et du sonore en général. Alors, Pourquoi ces jeunes gens sont frappés à mort en silence? Enfin, pas à mort, pardon, jusqu'à ce que le sang coule. Il me semble, de manière générale, que le spartiate, le sens de ces rituels pour ce qui est du son, c'est qu'il est amené à écouter son environnement sonore précisément, à faire silence pour entendre ce qui se passe, c'est-à-dire dans le monde grec, entendre la volonté des dieux, qui s'exprime notamment par les sons, point qu'on pourrait encore développer, et notamment les animaux sont, pour les Grecs, en tout cas à l'époque archaïque, l'incarnation des signes divins. Pausanias est très clair sur ce sujet, etc. Il se trouve que donc ces rituels d'acceptation du silence pour entendre le monde sonore, il induit ensuite une pratique très réglée de la musique. Et notamment, donc Pratinas, un auteur du 5e siècle, dit du Spartiate que c'est une cigale toujours prête pour le cœur. Mais pour le cœur des citoyens, pas pour chanter comme ça, pas pour une pratique musicale, pour le plaisir. Et c'est un fait curieux, mais qui me semble s'expliquer par cela, que Sparte, après l'époque archaïque, après l'époque classique, on n'en entend plus parler dans le monde de la musique, ou presque. Il n'y a pas de concurrence spartiate au grand concours grec, ou très 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 peu. Ils sont absents. L'école musicale spartiate a complètement disparu après l'époque archaïque, du moins dans la scène internationale, si je puis dire, grecque. En revanche, Sparte continue de fonctionner comme ça. Et il me semble que, voilà, à Sparte, la réponse, c'est qu'on ne pratique pas la musique pour elle-même, on la pratique comme éducation à l'environnement sonore. Et je finis avec ce texte d'Aristophane, pour passer à l'époque classique, élargir un peu la question, dans la Lysistrata, donc... c'est très bien, on est le lendemain de la journée internationale pour les droits de la femme, donc Lysistrata, cette pièce d'Aristophane qui défend justement les droits des femmes, qui met en scène donc une femme, Lysistrata, qui prône la grève du sexe dans l'Athènes démocratique pour faire la paix, et j'ai laissé la traduction anglaise, voici ce qu'elle dit à peu près donc en français, c'est que c'est la toute fin de la pièce, et c'est un lacédémonien qui parle, et ce lacédémonien évoque le culte, donc les cultes de Sparte en musique, et notamment les chants en l'honneur de ici Athéna Kalkioikos, je vais renvoyer à l'anglais, ici, auprès de la rivière Orotas, donc c'est le sanctuaire d'Artémis Ortia, qui était évoqué dans une réplique précédente. L'Orotas est encore répété, ce qui montre que c'était un point névralgique des cultes de Sparte. Et l'allusion à Athéna Kalkioikos est répétée encore à la fin, avec l'idée des chœurs. Donc pour les Spartiates, mais aussi pour les Athéniens de l'époque, il est clair que toute les rituels de Sparte, la religion de Sparte, est liée à ces deux espaces dont j'ai parlé. Donc, il joue un rôle clé dans la définition de l'environnement social et sonore de Sparte. Donc, je conclue. J'espère que je vous ai montré que le paysage sonore de Sparte donc, peut être articulé à la question de l'institution musicale spartiate, en termes notamment d'anthropologie culturelle, donc étude mise en relation du culturel, la musique et des cultes, du cultuel ici, les pratiques culturelles et notamment donc, ces rites de passage qui sont bien illustrés à Sparte, aussi bien pour les jeunes gens que pour les jeunes filles. Donc, j'espère aussi avoir montré que les Spartiates ne pratiquaient pas la musique comme un art percé, mais bien dans une constante interrogation de leur monde environnant. Et c'est pour ça que, pour conclure, je suggérerais que le style musical lacédémonien puisse être appelé un laconisme musical. Je vous remercie.
Alors, on est dans la phase où les questions peuvent aller aux deux orateurs. Si vous en avez encore pour Nel Ziegler, n'hésitez surtout pas. Et sinon, pour Sylvain Perrault sur Sparte. Est-ce qu'il y a des questions pour Sylvain?
Non. Donc, les égyptologues s'en vont.
Elle fuit pour éviter d'avoir à te répondre. Deux questions de ma part. Une curiosité, une question... Ton histoire de perdrix qui ne sont pas endémiques, c'est quoi les sources pour ça? Enfin, comment est-ce que vous pouvez dire que les perdrix ne sont pas endémiques de Sparte?
Il y a un spécialiste des oiseaux du monde grec, Arnot.
Ancien. Du monde grec ancien.
Oui, des oiseaux dans le monde grec ancien. D'accord. Qui a fait une collation de toutes les sources et des vestiges de faune, faunique, d'archéozoologie. Et c'est les conclusions auxquelles il est parvenu. Alors, je ne peux pas restituer en détail. Il semble que cette espèce-là de perdrix, elle a été identifiée, donc c'est pas la perdrix des rochers, mais c'est une variété, une espèce pardon, de chouka qui ne se trouve pas, en tout cas de sur Sparte, et qui serait plutôt d'Athènes. Mais après, je ne peux pas te restituer le détail de l'argumentation.
C'est déjà plus que je n'imaginais. Une autre question, j'ai peut-être eu un moment d'absence, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu veux absolument faire coller la dédicace des Oloï d'Artemis Ortia avec le rituel de flagellation. Pour quelle raison est-ce que tu veux faire coller les deux absolument ? Et pourquoi
pas
imaginer simplement...
C'est vrai que, voyant l'heure passer, j'ai raté une étape du raisonnement. Donc, ce n'est pas toi qui as eu une absence, c'est moi qui ai eu... Il se trouve que dans le sanctuaire d'Artemis Ortia, on joue à l'Olos le nom Ortien, une composition musicale donc en l'honneur d'Artemis Ortia, qui donc, devait accompagner le rituel de la flagellation. Et donc, il me semble que si on offre des oloï dans le sanctuaire d'Artemis Ortia, où le principal culte était... donc à l'Olos d'une part et dans le cadre de la flagellation, il devait y avoir un lien, d'autant que c'est un jeune homme, enfin un homme pardon, je ne sais pas s'il est jeune, un ça. Homme qui a offert des oloï. Donc voilà, mais c'est de l'ordre de l'hypothèse, on est bien d'accord.
Devait, parce que tu as dit dans le cours de l'exposé qu'on pouvait supposer qu'il y avait à ce moment-là du jeu de l'Olos pendant la flagellation. Et donc le nom est lié lui directement avec la flagellation
ou non. Non, le nom ortien est lié au sanctuaire d'Artemis Ortia.
On a les éléments et tu supposes
voilà,
que...
Voilà, c'est mon interprétation.
Et c'est le seul rite vraiment identifié pour ce sanctuaire.
Oui, pour le sanctuaire d'Artemis Ortia, oui. Alors, il y a un autre élément que je n'ai donc pas évoqué. C'est bien que tu me demandes, comme ça je peux en parler. On peut comparer cette situation avec une situation à peu près semblable à Athènes, à la même époque, dans le festival des Targélies, où donc un festival en l'honneur d'Apollon et Artémis, lié également à la fertilité et la fécondité, et c'est aussi un rituel de flagellation à l'Olos, accompagné à l'Olos, alors flagellation avec des branches de figuier, ce qui fait qu'on interprétait le nom du figuier, comme ça qu'il s'appelle, le Cradies Nomos. Et à Athènes, par contre, c'est un rituel de bouc émissaire, donc ils portent la souillure de la cité et on les exclut. À Sparte, c'est pas des boucs émissaires, mais il y a cette flagellation qui est quand même interprétée par les sources comme une manière, d'une part, de s'assurer la fécondité des sols et de se débarrasser des miasmes, du miasma que porte la cité tous les ans.
Ok, merci.
Une toute petite remarque par rapport au chant de la grenouille que vous faites très très bien.
C'est pas moi, c'est Aristophane.
Je ne crois pas qu'on puisse avoir les bonnes fréquences avec du bronze. On peut avoir le bon rythme, mais les bonnes fréquences, ça m'étonnerait beaucoup. C'est une toute petite remarque, hein, c'est parce qu'il faut que ça donne dans du beaucoup plus grave. Une question.
Alors, dans ce cas, je veux juste dire une chose, c'est que les cymbales du monde grec sont petites. Elles font 10 cm. Elles ont un son plus grave que les cymbales que nous connaissons dans notre monde.
Ouais, il faudrait regarder le matériau exactement. Je ne sais pas si ça a été fait.
En bronze.
Est-ce que les clochettes que vous avez fait voir, quelle est leur chronologie? Enfin, où j'ai peut-être pas vu.
6e siècle.
6e.
6e siècle.
Merci.
Début du 5e siècle peut-être, mais deuxième moitié du 6e.
Oui, l'instrument que tu nous as montré, donc l'Olos, est-ce qu'on est sûr que c'est un Olos ou ça pourrait pas être une flûte? Parce que je me rappelle, tu nous avais montré dans un autre séminaire une flûte sur une île.
Oui, Délos, oui, la tête traversière Délos. Non, on est sûr que c'est un Olos parce que la flûte traversière de Délos, enfin, qui a vraiment existé effectivement, cet instrument n'a pas du tout le même calibre que les oloï. Il est plus large. Donc, les seuls vestiges qu'on a de sûr, donc de flûte traversière, d'une part sont plus larges en termes de calibre, un diamètre plus large, et d'autre part ne font leur apparition qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ.
D'accord.
Donc là, il n'y a pas lieu d'imaginer que ce soit des flûtes, ce sont bien des oloï.
Et dans les textes, on ne parle pas de flûte, on parle.
Là, le plagiolos, qui est la flûte traversière, ne fait son apparition qu'à l'époque hellénistique, donc au 3e siècle.
D'accord. Et je profite d'avoir le microphone pour une question pour Nel. En fait, tu nous as parlé d'une flûte en argent. tu nous as montré une flûte en argent. Moi, je la trouvais un peu fine pour une flûte. Est-ce que ça pourrait pas être un holos? Enfin, je ne sais pas. Hein. Est-ce que...
Oui.
Pardon.
Dans le catalogue de Philadelphie, parce que c'est à Philadelphie, il paraît qu'on peut le jouer, mais je ne sais pas maintenant moi-même distinguer une flûte d'un holos. Donc je pense qu'il faut regarder, la reconstitution est jouable, donc ils ont vraiment fait une reconstitution exacte de ce qu'ils ont trouvé et ils ont pu jouer dessus, mais il faudra re-regarder cet élément dans le catalogue de Philadelphie.
J'ai une question pour toi qui me reste aussi sur le cœur, donc je ne peux pas garder ça. Dans toutes les plaquettes d'argile que tu nous as montrées, qui apparaissent au deuxième millénaire, si je ne me trompe pas, il y a toute une série de plaquettes qui sont liées à la nudité ou à la semi-nudité. Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise particulièrement les musiciens à cette période-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de du rapport aux habits et à la semi-nudité, ou est-ce que c'est un hasard de la présentation?
C'est surtout les représentations des femmes nues, hein, jouant du tambourin ou ne pas jouant du tambourin. Mais cette... Oui, on suppose que ça a un lien avec du culte de fertilité, le désir de sexualité, etc. Mais on a rarement le contexte archéologique pour ces objets. Mais souvent, c'est dans les tombes, parfois c'est dans les maisons, donc on l'a trouvé, on suppose que c'est dans ce sens-là. Les musiciens, très généralement, sont dans un contexte cultuel, donc on sait qu'ils sont censés faire les incantations, chanter et avoir un sens. Ces statuettes, on leur prête un sens apotropaïque. Donc ils représentent en figure ce qu'on souhaiterait qu'un musicien fait pour protéger la maison ou le défunt. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, c'est surtout interprétatif.
Je voulais revenir sur le bronze à la grenouille, ce personnage qui est monté sur une grenouille. Et qui, non, pas celui-là.
Oui.
Qu'est-ce qui permet de savoir que le bronze a été fabriqué à Sparte, puisque la couronne est égyptisante?
Alors,
est-ce que la grenouille renverrait pas donc au thème de la crue du Nil, comme c'est le cas en Égypte? Est-ce qu'il y a forcément une adéquation sonore, effectivement, que les cymbales, c'est peut-être douteux, je ne sais pas.
C'est une hypothèse, hein, que c'est simplement qu'il y a différents éléments dans cette image qui vont ensemble. Est-ce qu'ils vont ensemble? Ça, je ne peux pas le démontrer. Après, que ce soit spartiate, c'est sûr, parce que la production de manches de miroir, de toute façon, est à cette époque spartiate. Il y a d'autres parallèles, alors dans la facture aussi même, la technique du bronze... Et dans la production générale des manches de miroir, on n'a pas d'autres cités productrices que Sparte. Après, il est évident, puisqu'on a cet exemple de grenouille à Boassone, où il y a des influences orientales au sens large du terme, donc Orient et Égypte, qui circule à Sparte. Sparte, on sait qu'il y avait des contacts commerciaux entre Sparte et l'Égypte, donc les motifs circulent. Alors, est-ce que cette grenouille, c'est la crue du Nil, ou est-ce que ce sont les marais de Sparte? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est aucun des deux? Je n'ai pas la réponse. Ce que je constate, c'est que c'est une production spartiate. Donc au moins, les Spartiates ont décidé, à un moment, cet atelier a mis ensemble une grenouille, une femme nue, une couronne isiaque et une cymbale. Donc je pose les questions, j'ai dit, hein, c'est source et problème. Je ne prétends pas forcément avoir la réponse, c'est en tout cas une hypothèse que je mettais en lien avec l'ensemble du culte d'Artémis Ortia.
Oui, l'œuvre.
Oui, oui, tout à fait.
Sixième.
Oui, oui, même période exactement que celui-là.
Même atelier.
Oh, atelier spartiate. Enfin, là, c'est démonien. Laconien même. Laconien. Après, le même exactement, ça. Mais facture laconienne.
Euh,
je voudrais revenir sur le problème de la perdrix. Alors, c'est peut-être un petit détail, mais est-ce que le terme qui désigne cet oiseau dans les sources, est-ce que ça peut désigner un autre oiseau? Ou c'est catégoriquement la perdrix? C'est cacabac, je crois.
Oui, alors, mais donc Athénée le cite parce que c'est un mot inhabituel. Hein. Il n'existe que chez peu d'auteurs, et notamment chez Alcman. Le nom traditionnel de la perdrix en grec, c'est perdix. Donc, il y a la perdrix... De manière générale, elle est connue. Simplement, Alcman emploie le terme. Je vais retrouver, oui. Pardon. Excuse-moi. Voilà. Emploie le terme de cacabis. On trouve aussi cacabée. Alors, les linguistes, notamment Chantraine, pour le monde grec, pensent à une origine orientale, d'ailleurs, du terme, notamment une origine hittite. Il y aurait des parallèles en hittite. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais le croire sur parole. Et c'est ce qui fait problème, c'est que justement, ce n'est pas un mot grec. Donc c'est aussi ce qui pose le problème de la question endémique, c'est que c'est pas un mot grec. Pourquoi Alcman utilise un mot qui n'est... Alors, il y a les contraintes métriques de la poésie, hein, mais quand même, ce mot, il sort pas nulle part, donc il vient sans... Alcman étant d'origine a priori d'Asie mineure, il aurait peut-être emporté avec lui ce mot dans ses bagages en allant vers Sparte. Mais c'est pas le mot traditionnel pour la perdrix en grec.
Alors, nous reprenons avec une session égyptienne, mais la cohérence de la session est non seulement dans l'espace géographique et les civilisations concernées, mais aussi dans les approches méthodologiques, puisque nous avons deux communications qui vont s'enchaîner, qui ont pour point de départ des instruments, et les vestiges d'instruments, et réflexion autour de ces instruments et de ce que l'on peut en faire. Alors, dans un premier temps, il m'est agréable de demander à Dorothée Elvart de l'EPHE de venir nous présenter son travail sur les sistres égyptiens et de venir expliciter son titre énigmatique, les instruments de musique qui n'en sont pas.
Merci.
Scandale.
Bon, je te remercie quand même avant de commencer. Donc, j'aimerais remercier Alexandre Vincent pour son invitation à cette journée d'études poitevine sur l'histoire et l'archéologie du son, et ainsi que l'espace Mendès France pour son accueil. Donc, je suis heureuse de saisir cette occasion pour vous présenter une courte synthèse de mes travaux sur le sistre égyptien. Alors, en effet, le titre de cette communication, « Les sistres égyptiens, ces instruments de musique qui n'en sont pas », peut vous paraître étonnant. Comment un instrument de musique peut-il ne pas être un instrument de musique ? Donc cette idée que je pose ici pour la première fois en ces termes est en fait le fruit d'une longue réflexion. En observant et en manipulant ces objets, j'ai toujours douté de la fonction purement musicale du sistre. D'autres avant moi l'ont été également. Et je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais il manquait une assise sérieuse à ce scepticisme. Comment prouver, par les seuls vestiges archéologiques, que le sistre n'a pas été fabriqué dans le but de faire de la musique ? La réponse était en fait contenue dans les textes hiéroglyphiques des anciens Égyptiens. Les Égyptiens, vous le savez sans doute, ont beaucoup écrit, notamment sur des supports non périssables et durables comme la pierre, ce qui est bien sûr une chance inouïe pour nous quand le monument est parvenu jusqu'à nous dans un bon état de conservation, cela va sans dire. Et c'est en particulier par l'examen des textes des temples de la déesse Hathor à Dendara en Haute-Égypte que j'ai pu bâtir mon argumentaire et être en mesure d'avancer l'idée que les sistres ne sont pas des instruments de musique. Je vous livre donc aujourd'hui les clés de mon cheminement. D'abord, je vous montrerai quelques exemplaires de sistres conservés au musée du Caire, puis je plongerai un petit peu avec vous dans la lexicographie des temples, enfin plus précisément dans la lexicographie du temple d'Hathor de Dendara. Le musée égyptien du Caire possède une collection de 63 sistres ou fragments de sistres qui ont tous été publiés en 1949 par le musicologue Hans Hickmann dans un volume du catalogue général des antiquités égyptiennes, qui partie de catalogue dédiée aux instruments de musique. Alors l'auteur a procédé dans ce catalogue à un inventaire et une description minutieuse de chacun des objets. Tous les objets sont détaillés selon chaque partie de l'objet est détaillée. Les mesures également des instruments ont été effectuées de façon très précise, une provenance est supposée ainsi qu'une datation. Quelques photos en noir et blanc complètent le catalogue en fin de volume. Et depuis lors, les sistres sont répertoriés à chaque fois parmi les instruments de musique des catalogues des principales collections d'art égyptien, classés vous avez le mot ici, là, tout en haut de cet extrait de page de ce catalogue, classé dans la famille des idiophones, c'est-à-dire des instruments de percussion dont le son est produit par l'instrument lui-même. Alors en 2010, je me suis intéressée d'un peu plus près à la moitié environ de la collection du Caire, soit une trentaine de sistres, choisis parmi les mieux conservés et ou possédant un élément décoratif remarquable. Donc, j'ai pu avoir accès aux objets, les prendre en main et les faire photographier par Ahmed Amin, l'un des photographes du musée. Et j'ai pu notamment demander des photos de détails de ces objets, absentes, sans doute faute de place, bien sûr, du catalogue d'Hickman. Alors, on distingue très nettement deux typologies de sistres, typologies déterminées d'après la forme du cadre de l'objet. Donc, l'un prend la forme d'un arceau, que vous avez à gauche, on parle communément du sistre arqué. Et le second emprunte la représentation ici, hein, d'une porte monumentale à volute latérale. Vous avez ici le hiéroglyphe qui correspond à cette iconographie. C'est la porte qu'on appelle la porte Beren, d'après son nom égyptien. Je parlerai donc ici du sistre Beren. À ces deux typologies répond une dichotomie de matériaux, puisque les sistres arqués ont été fabriqués en bronze, les sistres Beren en faïence, quasiment toujours. Il y a des exceptions, mais enfin, c'est quand même la très grande majorité d'entre eux répondent à cette dichotomie de matériaux. Donc je reviendrai dans un instant d'ailleurs sur ces matériaux, puis tout à l'heure en prenant appui sur les textes. Je continue juste dans la description de l'objet pour vous dire que le cadre du sistre, quelle que soit sa typologie, est percé de trous sur ses côtés, est équipé de 3 ou 4 tiges métalliques qui s'étagent parallèlement dans le cadre. Alors voilà, vous en avez ici, il n'en reste plus qu'une, ici 3, ici 2. Je vous ai mis, oui, quand même un sistre du Louvre pour la bonne et simple raison que nous avons encore des sonailles. Hein, donc ces tiges étagées parallèlement dans le cadre étaient, on le suppose toutes, pourvues de fines rondelles métalliques, que donc j'appelle ici sonailles, qui étaient percées en leur centre d'un orifice adapté au diamètre des tiges, mais ces tout petits éléments, vu leur petite taille et leur fragilité, ont disparu de la très grande majorité des sistres. Ici, l'exemplaire du Louvre est tout à fait miraculeux pour ça, hein, si tant est que, bon, j'espère que les sonailles soient authentiques, hein, mais bon, voilà. Ici, vous avez aussi, on voit bien les deux tiges dans le cadre ici, et là, vous en avez deux. Je vous montrerai tout à l'heure le côté de l'instrument également. Ben voilà, ici le côté avec trois trous du côté de l'arceau, les tiges qui sont ici à côté. Voilà, encore là sur des bérennes, on voit bien qu'il était également percé de trous, que les tiges dans ce cas-là sont métalliques. Donc 2, 3, parfois on en trouve avec 4 trous. Donc cette... Oui, donc la partie supérieure du sistre constituée du cadre, des tiges et des sonailles repose, j'y arrive, donc sur un mortier intermédiaire ou un chapiteau couronnant une tête de la déesse Hathor. Il s'agit la plupart du temps, toujours d'une tête humaine, et la plupart du temps, cette tête possède des oreilles de bovidé, qui rappellent les origines de la déesse Hathor et qui peut être, la déesse Hathor pouvant être représentée sous forme de vache. Hathor est parée aussi assez souvent d'un large collier, et ça c'est un élément clé, elle est toujours représentée de face, et ce sur chacun des deux côtés de l'instrument. La frontalité de la déesse est donc double. Alors voici quelques têtes, donc ici sur des sistres bérennes, ici sur des sistres arqués en bronze, hein, je reviendrai encore une fois sur le matériau. On reconnaît donc les oreilles de bovidé, cette tête humaine chevelue, hein, oui, j'ai pas dit qu'elle était, elle portait également une perruque mi-longue, on va dire, bouclée ou non, un large collier. Et voilà, quand on prend l'instrument et qu'on le regarde de côté, on remarque bien, enfin il suffit de le tourner, hein, mais voilà la frontalité, la double frontalité de la déesse, qui la tête donc se répond de chaque côté de l'instrument. Et loin d'être anodine, la présence d'une partie du corps, et pas n'importe quelle partie, hein, le visage de cette divinité, va déterminer la fonction de cet objet. Hein, je reviendrai tout au long de cette communication. Encore un détail iconographique, l'uréus, le cobra dressé, que l'on trouve aussi très fréquemment de chaque côté de cette double tête d'Hathor, donc sur le côté de l'instrument. Voilà encore un exemple de sistre là en bronze sur le côté. On remarque l'uréus, la double tête. Ici, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de fragments également, et que là, il nous reste juste la tête de la déesse admirer, hein, le manche et tout le reste est parti, et il n'y a pas d'uréus, hein, l'iconographie était plus légère pour celle-ci. Le manche, enfin, donc, est parfois exploité pour l'inscription d'une ou deux colonnes de texte hiéroglyphique qui se rapportent, quand elles existent la plupart du temps, à un nom royal ou un nom divin, et en particulier sur les sistres en faïence. Mais il y a bien sûr d'autres types de manches avec différentes iconographies, différents éléments iconographiques, mais je ne détaillerai pas ici, hein. Alors là, technique de fabrication des sistres dépend du matériau utilisé qui lui-même, je l'ai dit rapidement, diffère selon le type de sistre. Les sistres arqués en bronze sont en général, pas toujours, hein, je vous donne les grandes lignes, en général constitués de deux parties assemblées, et dans ce cas, l'arceau, hein, donc formant la partie, le cadre, la partie supérieure, est rivé au chapiteau intermédiaire. Vous voyez ici, hein, comment il était assemblé, en général au moyen de clous transversaux pour être fixé, donc l'arceau pour être fixé à l'objet lui-même. Les sistres Beren en faïence sont, eux, quant à eux, plutôt fabriqués en une seule pièce. Quand je dis faïence, il faudrait préciser, bien sûr, je le mets toujours entre guillemets dans mes textes, parce qu'on a du mal à savoir exactement de quoi il s'agit. On parle de faïence de bleu égyptien notamment. Il s'agit toujours d'un produit céramique silicieux, c'est-à-dire à base de quartz, ce quartz est rendu cohérent par des quantités variables de verre interstitiel, puis recouvert d'une glaçure, c'est d'où le nom bleu égyptien, cette glaçure étant principalement de couleur bleu-vert, obtenue à partir d'oxyde de cuivre. Donc là, on voit bien ce noyau silicieux, et puis la glaçure qui est ici est abîmée, sous l'effet du temps, bien sûr. Là aussi, des variantes existent. Alors, non, pardon, je vous montre d'abord quand même quelques exemplaires de ces sistres Beren en faïence, entre guillemets. Ici, la couleur est quasiment complètement partie. Ici, on remarque encore bien les traces de bleu-vert. Ici aussi un petit peu. Il y a vraiment de fortes nuances, mais la couleur est en général toujours bleu-vert. Et puis, je vous ai dit qu'on avait une seule pièce, un moulage avec une seule pièce, mais là aussi des variantes existent, comme par exemple l'ajout d'un manche dans un orifice sphérique réservé à cet effet, donc ici à la base de la tête d'Hathor, donc de la partie intermédiaire du sistre. Alors, l'argent et l'or ont également été travaillés pour produire des sistres. Ici, un magnifique exemplaire en or du musée du Caire. La photo n'est pas issue de mon travail cette fois-ci. Je n'ai pas pu approcher ce sistre, il est bien trop précieux. Mais voilà ce que ça pouvait... le type d'objet auquel on avait affaire aussi, avec encore dans le cadre trois tiges, des petites sonnailles. Ici, il en reste une ou deux, ou trois peut-être. Toujours cette tête d'Hathor, le collier, enfin les éléments iconographiques que j'ai détaillés tout à l'heure. Un exemplaire en argent, tout à fait intéressant également, qui a été réassemblé avec les moyens du bord, je dirais. Un cadre Beren, deux tiges, il a remarqué l'assemblage l'assemblage entre le cadre, la Beren, et puis les tiges. On a là une fine plaque métallique qui était fixée à l'intérieur du cadre, et les tiges étaient ensuite rapportées, traversant toujours bien sûr le cadre. Voilà un détail d'un des côtés où là, une tige est encore conservée. Vous voyez que les extrémités, oui, je ne l'ai pas précisé, les extrémités des tiges étaient en général recourbées pour ne pas évidemment sortir de l'instrument quand il était secoué. Et puis, je le signale quand même, des simulacres en bois ont été retrouvés, mais là, évidemment, tous les détails n'y sont pas. Hein. On a là un objet qui n'est définitivement pas un instrument de musique, parce qu'il n'y a aucun aménagement sonore à l'intérieur du cadre, hein, qui est plein, qui est en bois. Mais enfin, on est là quand même dans le même type, on rappelle en tout cas cet objet. Alors, la dichotomie de matériaux bronze-faïence, je vous remets pour le coup sur la première image. Voilà. Donc, bronze-faïence a amené les commentateurs à avancer l'idée d'une sonorité incontestée du sistre en bronze. Hein, on imaginait que les sistres en bronze étaient agités, produisaient un son, hein, le son du bronze, face à une non-sonorité du sistre en faïence, entre guillemets. Mais en fait, ni le sistre en bronze, ni le sistre en faïence ne sonnent vraiment. Donc en les manipulant, alors je ne les ai pas agités pendant des heures et je n'ai pas fait de concert au musée du Caire non plus, hein, mais le fait de les avoir en main m'a fait prendre conscience de leur absence d'ergonomie musicale. Donc on a plusieurs petites choses. Le poids du bronze, notamment, n'invite pas du tout à agiter un sistre de façon leste. On a vraiment un objet qui, en main, pèse très très lourd et on est un petit peu loin de l'iconographie d'un personnage en train d'agiter, comme il le ferait avec un hochet, cet instrument. D'autre part, certains sistres, je vous en ai montré, hein, en bronze, sont pourvus de trous immenses sur les côtés qui, en réalité, laissent passer les tiges au travers, malgré le côté recourbé de ces tiges. C'est vraiment immanipulable, on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment pas du tout ergonomique. Quant aux sistres en faïence, effectivement, ils sont dotés d'un cadre minuscule, donc on a affaire à des objets plus légers. Impossible de faire glisser des sonailles sur les tiges de ces sistres. Hein, c'est vraiment, cette partie-là est vraiment minuscule. Donc là, évidemment, la musicalité, enfin l'ergonomie musicale est absente également. Donc, ceci dit, si on tient vraiment à faire sonner les sistres, on se risque davantage à entendre un bruit de casserole, hein, qu'un un doux et harmonieux cliquetis, comme on a pu le lire parfois dans les textes, hein, que les sistres cliquettent. On a comparé, j'en reparlerai, on a beaucoup comparé les sistres à des hochets, des hochets musicaux, mais d'après ce que j'ai pu entreapercevoir en manipulant certains, vraiment, on est très loin de ça. Hein. Alors, cette expérience de manipulation des sistres, vous l'avez compris, m'avait donc rendu plus que sceptique sur la fonction purement musicale de l'instrument. Donc, tantôt lourd, tantôt fragile, les sistres n'ont semble-t-il pas été conçus organologiquement parlant pour faire de la musique. Hein. Certains exemplaires sont en mesure de produire des sons, certes, avec ces tiges, ces sonailles, on peut les manipuler, mais reste à savoir dans quel contexte les sons des sistres étaient utilisés. Donc voilà pour la partie purement archéologique et de quoi on part, de quoi partons-nous avec les objets. Passons maintenant donc à cette partie iconographique et surtout lexicographique. Alors les textes hiéroglyphiques qui décrivent le sistre, leurs matériaux et la façon de manipuler donnent de nombreuses indications qui ne vont pas dans le sens de l'appellation instrument de musique. Alors je vous communique ici les éléments qui m'ont amené à réfléchir à cet élément et surtout à redéfinir la fonction des sistres. Chacun de ces éléments est le fruit d'une enquête lexicographique menée à partir d'un corpus de fort nombreux textes hiéroglyphiques. Hors de propos ici, pour moi, beaucoup trop long également de rentrer dans les détails, en détail dans ces textes. Donc je me borne à vous livrer les résultats de ces enquêtes. Et bien sûr, s'il y a des questions après, j'y répondrai très volontiers. Donc suivant trois points principaux, à mon avis, les matériaux des sistres, leur désignation, toujours dans les textes, qui m'amènent à apporter une nouvelle fonction et donc à casser cette image du sistre comme instrument de musique. Alors avant ça, je vous mets un petit peu dans le contexte, en vous présentant le site cultuel de la déesse Hathor à Dendera. On se trouve là, dans le sud du pays, je ne vous ai pas mis une carte d'Égypte, vous n'avez que là, ici, que le sud. Dendera est ici, il s'agit du Nil, ici, bien évidemment. Donc on est en Haute-Égypte, c'est-à-dire partie sud du pays, et c'est un site qui a été bâti à l'époque gréco-romaine, donc on est vraiment à la toute fin de la civilisation pharaonique de l'Égypte ancienne. Bon, pharaonique pose un toujours un peu problème, enfin pour cette période-là, mais on est entre le 4e et le 4e siècle avant et 4e siècle après Jésus-Christ, plus ou moins. On a là, donc, sur ce site, divers bâtiments cultuels, bien sûr, un grand temple d'Hathor que vous avez ici, vous en voyez là la façade, des temples de naissance ou Mamisi, et puis un temple d'Isis à l'arrière, plus petit. Isis étant à Dendera la parèdre d'Hathor, donc elle prend exactement les mêmes fonctions qu'Hathor. Et puis des portes monumentales qui mènent au site, porte d'Hathor qui mène vers le grand temple de la déesse et la porte d'Isis pour l'autre axe. Voilà, quand vous entrez sur le site, la porte monumentale d'Hathor et le grand temple. Voilà, encore une fois, une photo du temple. Remarquez cette iconographie au passage, j'en parlerai pas, mais vous reconnaissez très très bien la déesse Hathor avec, comme par hasard, la porte monumentale, le Beren, qu'on trouve sur le Sistre. Voilà encore une vue à l'arrière du temple d'Isis, avec la porte, le lac sacré, les côtés du temple. Je ne vous ai pas précisé, je le fais maintenant, parce qu'on aperçoit un petit peu, toutes les parois des... extérieur, tant extérieur qu'intérieur de ces édifices sont gravés et inscrits, donc gravés de figures divines, royales et divines, et inscrits de hiéroglyphes. Donc on a vraiment un champ iconographique et textuel tout à fait, on a un livre ouvert monumental dans la pierre, hein, véritablement. Donc c'est très très riche. Voilà ici l'intérieur du temple, tout ceci c'est gravé, vous voyez, je vous ai mis une photo d'une des scènes, d'un des tableaux de l'organisation de ce temple, sachant que grosso modo, pour vous donner une idée, toute la décoration était organisée en registres, donc vous avez en registres horizontaux, pardon, donc un soubassement, un premier registre, un deuxième, un troisième, un quatrième parfois, au moins trois registres en tout cas, avec un découpage ensuite par tableau rectangulaire qui représente la plupart du temps le pharaon ici, présentant divers objets je ne les détaillerai pas, mais il y en a beaucoup, à la déesse. Ici, il s'agit d'Hathor, il s'agit même d'Isis, parce qu'on reconnaît le petit trône sur sa coiffe. Donc, Hathor ou Isis, je vous l'ai dit, hein, il s'agit de la même déesse, qui elle-même est accompagnée peut être accompagnée d'autres divinités. Donc là, vous avez reconnu entre les mains du roi deux sistres, un de chaque type, un arché, un béren, et c'est donc à partir de cette documentation c'est dans cette documentation que je suis allée chercher les éléments que je vous indique aujourd'hui. Donc voilà une image, donc vous voyez les textes hiéroglyphiques qui s'agencent verticalement autour des figures qui légendent, hein. On a vraiment un texte qui concerne le roi, un texte qui concerne la déesse et les autres dieux. Et puis des détails sur ce qui est en train d'être fait, en général cette petite colonne ici qui est en dessous du geste du roi, donc on nous dit vraiment explicitement, parfois on aimerait bien encore plus de détails, mais enfin c'est quand même déjà bien détaillé pour nous permettre d'avoir des clés de compréhension. Voilà encore une scène, hein, parfois c'est plus ou moins lisible suivant la salle, l'état de conservation, mais globalement, Dendera est un des temples les mieux conservés, hein, donc on a vraiment, tout est quasiment lisible. Hein. Voilà une scène à l'extérieur, voilà, donc tout ce tableau-ci, hein, on reconnaît encore entre les mains du roi deux sistres. Et voilà, je vous donne une idée de ce que... On a la publication, le temple est publié, donc nous avons les hiéroglyphes sur version papier et pas forcément sur version pierre, parce que vous imaginez quand vous avez un relief au quatrième registre, un petit peu difficile d'aller le lire. C'est toujours bien d'aller vérifier sur place quand on peut pour des détails, mais globalement les textes sont accessibles sous forme publiée et les textes hiéroglyphiques en colonne retranscrit sous forme de ligne, hein, enfin en ligne. Alors, les matériaux des sistres, donc premier élément. Les anciens Égyptiens ont décrit les sistres dans leurs textes et notamment la nature de ces matériaux. Il est donc intéressant de confronter ces descriptions aux matériaux des objets tels que je vous les ai montrés. Ces matériaux sont-ils les mêmes que ceux que nous observons sur les objets conservés ? Ont-ils des vertus sonnantes, hein, ou sont-ils associés à d'autres propriétés? Alors, il y a trois matériaux cités dans les textes. L'or, Nebou, la faïence, donc je mets entre guillemets, qui correspond, le mot égyptien est Tchehenet, et qui concerne soit le sistre Beren, vous voyez ici l'hiéroglyphe, j'en reparlerai, ou les deux sistres, Le troisième matériau est Wadj Shemaï, qui est littéralement pierre verte de Haute-Égypte. Alors certains auteurs ont essayé de préciser cette idée de pierre verte de Haute-Égypte, mais aucun s'entend. On a parlé de feldspat, de divers pierres verte, mais en perdant la connotation du coup la provenance Haute-Égypte, qui est à mon avis tout à fait essentielle dans ce mot. Et donc le Wadj Shemaï, la pierre verte de Haute-Égypte, ne concerne que le Sistrarché. Alors donc on pourrait dire très bien, on est là, on colle à peu près à la documentation archéologique, hein, on a vu faïence, pierre verte, bon, on va voir, c'est problématique tout de même. Dans le détail, c'est quand même un petit peu délicat la comparaison est quand même délicate sur plusieurs points, hein. L'or, premier matériau mentionné dans les textes, c'est vraiment l'or avant la faïence, mais très peu d'exemplaires de cistre en or nous sont parvenus. Alors, on peut mettre cet argument de côté parce que on peut considérer que les cistres en or, les objets en or, ont été les premiers à être pillés, réemployés, donc... Là, je ne m'avancerai pas trop sur ce terrain-là, mais l'élément qui est encore perceptible à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas de traces d'or sur les éléments, sur les objets en faïence des musées. Donc l'or étant cité avec la faïence ne colle pas vraiment parfaitement avec les artefacts. Oui, je ne détaillerai pas ici non plus, mais on se pose encore des questions sur la correspondance entre la tchéhenet des textes et la faïence la dite faïence mise entre guillemets, donc des objets. Est-ce qu'il s'agit véritablement du même matériau? Ça, c'est encore aussi un peu un terrain glissant. Enfin bon, on peut considérer qu'il s'agit plus ou moins de la même chose. Mais le dernier matériau, là, il y a vraiment un gros problème qui se pose. Faire correspondre la pierre verte de Haute-Égypte avec du bronze, là, c'est très compliqué, d'autant qu'il existe un mot en égyptien pour désigner le bronze, qui n'est absolument pas utilisé dans les textes. Donc là, on a vraiment un matériau dans les textes qui ne correspond pas avec les objets. Alors, à la lecture de ces descriptions, évidemment, même question que devant les cistres du musée. Les matériaux des cistres sont-ils cités pour rappeler leur fonction sonore ou pas? Alors, à mon avis, les textes apportent la réponse, non, les matériaux des cistres ne se réfèrent pas à leur sonorité, mais à une seule chose, à leur caractère brillant, étincelant, porté par la palette de tons or, vert et bleu, qui évoque de façon très générale la lumière cosmique. Et cette brillance des cistres fait directement écho à celle de la déesse Hathor, dont certaines... Oula. Ah oui, j'ai jamais une animation, ok. Dont certaines des épithètes reprennent le vocabulaire des matériaux des cistres. Donc Hathor est nommée la dorée dans les textes, on retrouve ce matériau Nebou, l'or. Son visage, Her, qui est sur le cistre, est brillant dans les textes, donc Chehen. Il est sans colère, Hem Shepet, visage brillant sans colère. Et puis... La période de Haute-Égypte, là, pourrait trouver un parallèle dans l'utilisation du papyrus Wadj. Wadj, c'est aussi, vous voyez ici l'iconographie, c'est aussi le papyrus ici qui est présenté avec le cistre également à la déesse et qui se réfère encore une fois au sud du pays et aux marais dans lesquels la déesse était attachée. Donc, si la question du matériau est fondamentale pour envisager de reconstituer les sons d'un instrument de musique, on se heurte, vous l'avez compris ici, à plusieurs difficultés, car il semble que les matériaux employés ou cités dans les textes n'ont pas été choisis pour leurs propriétés sonantes. Donc les anciens Égyptiens n'auraient pas fabriqué les cistres dans le seul but de les faire sonner. Ceci dit, il n'en reste pas moins que les cistres ont un rapport au son, quand même, ce que les tiges et les sonailles rappellent clairement. Alors la façon dont les Égyptiens représentent et désignent le cistre nous éclaire un peu plus sur ce point. À chacun des cistres, vous l'avez vu, il y a un hiéroglyphe correspondant, ici un béren et ici un arqué, et puis un nom bien sûr a été attribué, un nom en hiéroglyphe. Il s'agit de Séchéchette pour le cistre béren, enfin c'est le T en réalité est absent. Toujours noté Séchéchette, mais on lit Séchèche, et Sérem pour le cistre arqué, avec ici, donc, vous avez le S, le CH, et ici le S, le R, le M. On a vraiment Bon, c'est pas toujours le cas, mais là, ici, le squelette consonantique du mot est développé. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ces deux mots, il faut que je termine. Ok. Alors, oui, non, je regardais ma montre, j'ai pas de montre. Ouh là là, oui. Très très vite, séchèche est un son à part entière. Quand on prononce le mot, je ne vais pas vous le faire, je ne me suis pas entraînée longuement comme Sylvain avec la grenouille, mais séchèche, ben voilà, on pourrait le prononcer. On a un rapport à l'onomatopée, un rapport au son, et sérem, à côté de ça, veut dire aussi image divine. Hein, donc on est avec ici l'effigie atorique. Et puis une allitération en che pour chasser la fureur de la déesse. Je vous passe ceci pour arriver sur mon donc, tout dernier point, puisque la fonction des sistres, qui ne sont pas des instruments de musique, donc n'aurait pas été conçue dans l'unique but de produire des sistres, mais leur fonction serait à chercher du côté de la déesse Hathor, évidemment. On l'a vu, le visage de la déesse, l'effigie hathorique, la brillance évoquée dans les textes et l'apaisement d'Hathor. Voilà, nous y sommes. La clé de compréhension des sistres est, à mon avis, ici. Ces objets n'ont en réalité qu'une seule fonction, celle de chasser la fureur de la déesse. Donc on a la référence au mythe dit de la déesse lointaine, qui relate l'exil de cette déesse sous forme de lionne furieuse en Nubie et qu'il faut apaiser pour qu'elle cesse ses carnages, ses dévastations, faire cesser le chaos. Et la nécessité de calmer la colère de la déesse est absolument essentielle. Enfin, calmer la déesse est essentielle pour la faire revenir dans son pays. Donc les sistres sont l'un des outils rituels destinés à l'apaisement d'Hathor. Par les sons, on l'a vu, par l'image, j'ai pas pu tout vous détailler, mais en réalité, voilà. Toute petite dernière idée, cette déesse qui est exilée en Nubie sous la forme d'une lionne est apaisée même en deux temps par les sistres. D'abord, elle entendrait, c'est pas confirmé par les textes complètement, mais j'en reconstitue un petit peu la trame. D'abord par les sons, elle est occupée à ses carnages, donc elle entend une première fois les sons du sistre, elle lève la tête, et puis là, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Sa propre image, le sistre et sa propre image apaisée, hein, cette image de déesse féminine et qui lui fait quitter toute sa colère. Conclusion, donc il n'y a aucun doute à avoir sur les capacités sonores du sistre, hein, je nuance un petit peu mon titre, mais on oublie que le sistre est utilisé exclusivement dans un cadre sacré, que leur fonction principale n'est donc pas de répandre ni de faire apprécier leur musique, mais d'apaiser la déesse au moyen des sons. Donc on imagine vraiment que les anciens Égyptiens percevaient le sistre comme un outil pratique nécessaire au rite d'apaisement de la déesse Hathor. Nous sommes donc très loin de la musique d'agrément. L'objet sistre se rapprocherait ainsi davantage de la petite statuaire que de l'idiophone. Et là, je me permets d'ajouter, parce que ça a été l'objet du dernier colloque à Paris, par rapport à l'analyse des matériaux au C2RMF, Benoît Mille, qui a commencé à observer certains sistres du Louvre, a tout à fait eu cette réflexion en direct, en disant non, je n'ai pas affaire là à un instrument de musique du point de vue organologique, mais vraiment à un objet de petite statuaire. Donc on est vraiment dans cette idée-là, le sistre, un objet rituel divin plutôt qu'un instrument de musique. Donc peut-être à revoir la place des sistres dans les musées, hein, les faire sortir des vitrines des instruments de musique pour les amener dans les salles dédiées au rite ou dédiées à Hathor. Voilà, merci.
Merci Dorothée, je m'en veux de t'avoir fait accélérer juste non, au moment où tu résolvais le suspense qui nous tenait depuis longtemps. Donc tu dégrades les sistres de l'instrument de musique à simple instrument sonore, objet sonore.
Oui, et surtout rituel. Voilà, il y a vraiment rituel. cette
Mais l'objet de musique peut être rituel.
Oui, enfin, donc objet sonore rituel, tu vois.
Objet sonore rituel.
Voilà.
Merci, c'était très intéressant. Et là, je regrette que, comme toi, j'ai rapidement passé la dernière partie de mon Rasbressi, mon exposé tout à l'heure, parce que la fonction de ces musiciens que je voulais parler, hein, dont les Kalou, était uniquement celle de calmer les divinités. Ah. Mais elle le faisait en chantant, avec des instruments de musique, Et donc cette fonction de usage cultuel, le dieu qui doit être apaisé, etc., ça correspond à ce que tu présentes. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Du coup, je ne suis pas si sûre que refuser le statut d'instrument de musique à ces objets est vraiment justifié, parce que même si un instrument ne sert qu'à un usage, c'est quand même un instrument. Oui, parce que, comme tu dis, c'est une onomatopée, ça fait quelque chose comme ça.
Alors, il y a l'image en plus pour le sistre, qui est très importante. Le son n'est qu'une partie de sa fonction.
Oui.
L'image, là j'ai passé très vite, juste ce tableau.
Je serais je ne pense pas que ces civilisations ont si clairement distingué la fonction, l'objet, la nature. Les instruments peuvent être divinisés, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des instruments quand même. Et donc,
mais en fait, la présence de la déesse est tout à fait propre au sistre.
Oui.
Donc, la fonction d'effigie divine, elle est à mettre à égalité avec le son. On a le son et l'image, c'est ce que je voulais montrer. L'imbrication du son et l'image définit chaque sistre. Mm-hmm. Donc, ce n'est ni qu'un instrument sonore, ni qu'une statue, qu'une image divine. On a vraiment les deux. C'est pour ça que je parle d'objet. Oui. Objet sonore, ce serait même pas une définition complète. Multimédia, on a vraiment. Mais c'est ce que. J'ai passé très vite, mais on a le. L'aspect sensoriel, les perceptions sensorielles pour cet instrument pour cet objet sont le son et l'image. Il n'y a pas que l'écoute, il y a la vue qui sollicite les sens de la déesse. Donc c'est pour ça
venant de la Mésopotamie, je peux t'assurer qu'il y a des instruments qui reçoivent un culte, qui reçoivent des offrandes, mais qui servent dans le culte en tant qu'instrument. Donc il y a toujours plusieurs. Et une toute petite dernière remarque pour ce jeu de mots qu'on fait avec la déesse Hathor qui est brillante comme le mot, etc. Le visage rayonnant, c'est aussi dans la langue sémitique, l'acadien, très féminin. Ça veut dire joyeux, simplement.
Oui, donc on a aussi un rapport à l'apaisement de la divinité. Après la colère, on est joyeux.
Oui.
Voilà, oui.
Oui, pour aller dans le même sens que Nels Ziegler, la joie est une fréquence, et vous avez montré que les sistres, on pouvait les fixer donc sur une baguette, on pourrait se demander une baguette pleine, creuse, métallique, bois, et ça peut agir également comme un diapason aujourd'hui. On peut le frapper au sol et ça peut forcément émettre un son.
Alors là, on se heurte, on n'a absolument aucun élément iconographique qui pourrait nous amener à dire ça, puisque les représentations sont toujours entre les mains des musiciens, même si, mais vraiment à hauteur de visage, et pas vraiment vers un geste qui tendrait au sol. En tout cas, moi, j'ai jamais vu, je sais pas, Sybille. Oui.
Alors, on y va, et puis on passe après. Pardon, madame.
Non, je voudrais juste dire que par rapport à l'exposé de Dorothée, je crois que surtout ce qui est frappant, c'est à quel point au niveau sonore, il faut sortir de nos propres manières d'interpréter les sources et essayer de rentrer dans la manière dont les Égyptiens se représentaient, eux, les sons et la musique. Et ça, je trouve ça très intéressant. L'objet est beaucoup plus complexe, il a plusieurs fonctions. Et nous, on a tendance à dire qu'une harpe, c'est une harpe, un sistre, c'est un sistre. Et eux ne pensent pas forcément comme ça. Je crois que, faut vraiment. Et la notion même d'esthétique musicale ne fonctionne pas nécessairement pour ces civilisations antiques. Pas de la même manière, en tout cas.
Je suis désolé, mais votre conclusion sur le bronze n'est absolument pas recevable. Vous ne pouvez pas juger de la sonorité d'un objet ancien qui est corrodé, la corrosion ne sonne pas, bien évidemment, qui est forcément recouvert d'un vernis du type paraloïde, etc., pour le protéger. C'est-à-dire qu'imaginez que vous preniez une clochette, vous la trempez dans la graisse, vous essayez de la secouer, vous dites « Ah, ça marche, ça ne sonne pas ». Votre raisonnement n'est absolument pas recevable. Il faut prendre en considération du métal sain. Et la sonorité, évidemment, ne vient pas de la pièce de structure. C'est pour ça que la réponse de Benoît, qui vous dit c'est comme une statuette, mais bien sûr, la pièce de structure, la sonorité, elle vient, et ça, vous l'avez très bien montré, de ces, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas le vocabulaire, de ces, vous avez appelé ça des sonailles, mais pour moi les sonailles c'est des clochettes en général, c'est autre chose, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est le terme dans les tambourins, c'est-à-dire que vous êtes en fait dans un instrument qui est très proche d'un tambourin. Un tambourin peut avoir une structure bois et ça fonctionne très très bien, c'est-à-dire que ce qui va faire la sonorité, ce sont ces rondelles percées, c'est elles qui vont jouer. Et il est évident que dans l'instrument que vous avez dans les musées aujourd'hui, ça va pas sonner du tout. Bien évidemment, vous avez des produits de corrosion qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, pour moi, votre conclusion n'est absolument pas recevable. C'est un instrument de musique qui sonne. Et l'argument sur le poids aussi, vous ne nous avez pas donné les poids, mais j'imagine que c'est de l'ordre de 300 grammes ou quelque chose dans ce genre-là.
Et moi, je n'ai pas parlé d'instrument parce qu'il n'y a pas du tout de place au jeu musical. Hein. Ce sont des simulacres.
Mais,
hein.
Pourquoi ? Je sais pas. Moi, je suis allé à des concerts récemment où il y a des percussionnistes qui ont des tas d'instruments qui vont faire des sons bizarres. Les rhombes du paléolithique supérieur sont considérés comme des instruments de musique. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça fait un son, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la conception de la musique. À partir du moment où ça fait un son, où ça fait un bruit, dans la culture, ça peut être considéré comme de la musique. Ça, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis absolument sûr, c'est que en tant que spécialiste du métal, c'est que les sistres complets avec les tiges et ce que j'appellerais des rondelles, il faudrait chercher quel est le vocabulaire exact, ça va sonner, ça va fonctionner. Comme un tambourin. Comme un tambourin, ça va parfaitement fonctionner. Et le problème du poids, vous avez dit c'est trop lourd. Mais pas du tout.
J'ai pas dit que c'était trop lourd, j'ai dit que c'était lourd.
Bah oui, mais c'est lourd, c'est-à-dire que c'est quoi ? C'est vers 300 grammes, quelque chose. De toute façon, c'est comme si vous disiez, oh, bon, on ne peut pas jouer de la guitare parce que ça me fait mal au bout des doigts. C'est-à-dire qu'il est évident que le musicien a une pratique musculaire qui est manipuler des objets de l'ordre de 300 grammes ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, du rythmé, ça ne pose absolument aucun problème.
Je peux répondre ? Bien sûr. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Par rapport, je suis pas spécialiste du bronze, évidemment, j'ai pas fait d'analyse de matériaux, j'ai pas pesé l'instrument non plus. Là, moi, je parlais simplement d'ergonomie musicale, c'est-à-dire que en prenant l'instrument en main, ça ne m'avait pas l'air d'être conçu pour essentiellement produire du son, sachant qu'il y a tous ces éléments. J'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps. Il y a aussi tous ces éléments décoratifs autour du cadre qui créent aussi, qui font pencher l'instrument de droite à gauche, des choses autour du cadre. Enfin, les tiges très lourdes qui sortent des trous, comme je l'ai dit. Enfin bon, même s'il y avait ces rondelles métalliques. Franchement, encore une fois, j'en ai manipulé quelques-uns. On est très loin d'avoir le corpus tel qu'il devait être disponible à l'époque, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai jamais dit que ça ne sonnait pas. Le rapport au son est évident. Les sistres devaient sonner maintenant. Et ça, je voulais le dire en conclusion, c'était dans mon texte, mais je ne l'ai pas mentionné. Il est évident que si on s'en tient à la définition empirique du mot musique qui dit que tout ce qui produit un son est un instrument de musique, oui, bah dans ce cas-là, on ne réfléchit plus et puis tout ce qui fait du son sert à faire de la musique. Certes, moi, je voulais m'intéresser en comparant avec les textes sur une fonction qui éloigne cet objet simplement d'un usage purement musical. Voilà, c'est une. Les textes le disent clairement. Donc, encore une fois, il y a un rapport au son. Ils étaient très vraisemblablement agités, ces sistres, et ils produisaient un son. Oui, c'est ça que je voulais rajouter. Quand je parlais de. J'ai dit bruit de casserole, oui, parce que dans les descriptions des sistres que nous avons dans toute la littérature égyptologique, et les auteurs anciens en parlent également, Plutarque, on parle de crécelles, on parle de cliquetis, on parle de choses comme ça très délicates, voyez. Là, on n'est pas dans un rapport mélodieux hein, au son pour cet objet qui devait réveiller cette déesse, cette lionne, et la faire sortir de son carnage et de lui faire lever la tête et de lui montrer son visage apaisé et de l'apaiser. Donc on est dans un son plutôt... percussif, et pas, c'est en ce sens-là que j'ai essayer de décrire cette sonorité du sisme. Mais encore une fois, c'est un objet qui sonne, qui était manipulé, c'était lourd, effectivement, peut-être pas forcément très ergonomique, parce que ça n'était pas la première fonction, et qu'il y avait, le son était vraiment aussi important que l'image dans l'usage de cet instrument et sa fonction rituelle. Voilà.
Nadine, j'arrive. Allez-y, monsieur.
Bon. Juste une petite remarque. La différenciation, peut-être que vous en avez parlé au début de matinée, je n'étais pas là, mais la différenciation son de musique est exclusivement culturelle. Je ne sais pas si vous êtes allé à des concerts de musique asiatique. Par expérience, pour moi, c'est plus du son que de la musique. Donc, je pense que cette différenciation n'a pas vraiment lieu d'être parce que il faudrait réellement se reporter dans la culture.
Oui, c'est l'objet. Oui, c'est.
Et donc, est-ce que il est nécessaire de faire cette différence son musique?
Là, je vous laisse tous répondre parce que paysage sonore, on est dans les problématiques.
Sur les parties lexicographiques, justement, c'est du travail de réintégration dans les textes qu'elle fait et qui fait ce travail de réinsertion, de contextualisation dans la culture pharaonique tardive. Et donc, elle est absolument consciente de ça. Et la terminologie musique-son, je pense que vraiment ce qu'elle veut, je parle en son, c'est tout à fait absurde, mais ce qu'elle veut faire, c'est détourner le fait de justement décontextualiser pour les lecteurs contemporains le fait qu'on aura un objet qui ferait une parfaite sonorité et qui, par cette fonction, aurait pour but de réjouir la déesse par son son. Ce qu'elle cherche à montrer, c'est que le son a une fonction qui n'est pas forcément esthétique, mais qui est pragmatique, efficace,
qui est rituelle.
Même, qui est rituelle. Je parle en son nom, mais
donc en fait, j'avais traité des sons dans les textes, dans la manière dont les sons étaient traités dans les textes, et donc ça apparaîtra dans le volume, Là, je n'ai pas parlé du tout aujourd'hui, mais en plus bien sûr des désignations des six, des matériaux, etc., on a un vocabulaire du son. Mais c'est pas musique, c'est son. Voilà. Donc,
c'est l'idée du tintama, en fait, pour attirer l'attention que. Voilà.
Oui. Voilà.
Non, mais disons. On pourrait discuter sur ces définitions.
Achetez-le.
J'avais deux remarques rapidement, parce que je ne sais pas si on a encore le temps. D'accord. La première, c'est que j'ai fait sonner un sistre, un exemplaire original, dans un musée. Je ne peux même pas dire lequel, parce qu'en principe, c'est interdit. Et quand ils sont bien conservés, ils sonnent très bien. On a ce
D'accord.
Ce mouvement de glissement des
trains. Mais un sistre gallo-romain, alors
Romain.
Romain.
Romain. Alors, pas en faïence, en métal. Donc, les tiges sont bien conservées, elles glissent parfaitement. Même s'il n'y a plus les rondelles, on a vraiment... on peut rythmer le son, etc. Mm-mm. Le terme de crécelle que tu as employé, en général, ce sont les mauvaises traductions des textes latins, en particulier du texte d'Apulée, où il parle des six. Crécelle, ça n'évoque absolument pas le son du six. Mm. Si vous savez ce qu'est une crécelle, hein, ça craque. On est vraiment complètement éloigné. Et la deuxième remarque, c'est qu'à l'époque romaine, donc, les six métalliques n'ont plus le même décor. Donc il n'y a plus la tête d'Hathor, on voit apparaître le dieu Bès ou Bésite, on voit apparaître la chatte au sommet. Donc est-ce qu'il faut songer à une resémantisation de l'objet?
Elle y est aussi, hein, la chatte, là, attendez.
D'accord, elle y est peut-être, mais en tout cas,
Hathor
disparaît. Or, du coup, cette association avec le mythe de la déesse lointaine, est-ce qu'il faut le repenser? Est-ce qu'il faut songer à une resémantisation de l'objet, comment est-ce que tu vois ça?
En tout cas, j'en ai pas parlé non plus, mais le rapport, enfin le lien entre le mythe de l'apaisement, enfin le rite d'apaisement de la déesse, et se voit aussi sur l'objet. Les chats qui sont là, la présence de Bastet avec ses petits, c'est clairement la déesse apaisée. On a Bess a un très grand rapport avec la musique également. Là, cet objet est tout à fait exceptionnel par sa décoration, hein, de toute façon, mais ce n'est pas quelque chose qui apparaît à l'époque romaine, hein. Quoique c'est des sons d'ici sur tardif, elle est gréco-romaine, oui. Ouais. Mais donc, on perd la
tête d'Hathor.
Et on n'a que le...
Le manche, plus ou moins travaillé, on peut retrouver Bès, on garde la chatte.
Mais la chatte, c'est Hathor apaisé.
Oui,
hein.
C'est vrai.
Vraiment. D'accord.
Donc finalement, il faudrait...
Il y a des ponts à faire entre... Oui, oui. Et puis quand c'est Isis, du coup je rebondis sur ce que tu dis, mais quand c'est Isis qui utilise le sistre, qui agite le sistre à l'époque, à l'époque gréco-romaine également, enfin là dans le monde hellénistique et romain, on n'a plus non plus la tête d'Hathor, on a un objet tout à fait beaucoup plus épuré de tous ces détails iconographiques. Et là, quelqu'un s'occupe de ce dossier-là, c'est Arnaud... Sora Ziegelmeier, voilà, qui fait une thèse dessus sur ce sujet-là à Toulouse, qui prend en charge ces objets-là, mais il est toujours, c'est Isis, donc on a bien vu que les liens entre Isis et Hathor sont très clairs. C'est parfois même à l'époque pharaonique, en tout cas, c'est la même déesse, hein, par rapport à ses fonctions. Oui, pardon.
Juste une dernière question. Je m'adresse à Christophe, en fait, Christophe. À Pompéi, il y a des peintures qui montrent des chœurs, des chanteurs, accompagnés par des sistres, non ? Je me trompe ?
On va m'attarder là-dessus parce que je les montrerai tout à l'heure. Il y a effectivement les fameuses peintures d'Herculanum, oui. Où on voit qu'au pied du temple... On a ce qui pourrait être des choristes, c'est pas sûr du tout, en tout cas une assemblée de dévots, et il y a des joueurs de sistre, plusieurs, qui encadrent la troupe, c'est vrai.
Mais il y a toujours un rapport à l'apaisement, à mon avis. Oui. Calmer, apaiser, rendre joyeux.
D'accord. Parce qu'on peut supposer qu'à l'époque romaine, la connaissance du mythe de la déesse lointaine, il est quand même très vague en Italie. Ou sur les bords du Danube ou en Gaule, et qu'on finalement on a construit, je sais pas.
Ouais.
On va laisser à Sylvie peut-être le temps de montrer que les arbres ne font pas non plus les instruments de musique, histoire de
Oh punaise.
Prends tout ton temps, tu es une demi-heure comme tout le monde.